Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel pour Massimango.
Le président sud-africain à Kinshasa d'hier une visite notamment pour appuyer la riposte contre Ebola avec 13,5 millions de dollars. Ali Nerbi a pu se rendre compte du travail de lutte qui est mené et qui a permis la guérison de plus de 200 malades. Accompagné de Félix Tshisekedi, il a aussi été tenu au courant des défis qui restent à relever pour mettre fin à cette épidémie. Dans ce journal aussi, la rencontre de 5 provinces du pays affectées par les exactions des rebelles ougandais des ADF. Les responsables de la sécurité sont depuis hier autour du vice-premier ministre de l'Intérieur à Kisangani. Objectif, mieux coordonner les opérations pour éradiquer ce mouvement et renforcer la coopération provinciale. Vous savez, la RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda, l'accusant de violer plusieurs conventions internationales. Cette démarche a fait l'objet des échanges entre les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier, leurs analyses dans cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Le président sud-africain est arrivé à Kinshasa hier jeudi. Cyril Ramaphosa est là pour une visite de solidarité et de travail axée sur le renforcement de la riposte contre l'épidémie d'Ebola ainsi que l'aide humanitaire. Il a été accueilli à l'aéroport international de N'Djili par la première ministre avant d'être reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine pour un tête-à-tête. Les deux personnalités se sont rendues ensemble à l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, pour évaluer la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Que retenir à ce sujet, Benjamin?
Devant plusieurs partenaires nationaux et internationaux, les membres du gouvernement congolais ainsi que la délégation sud-africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi est revenu sur l'environnement dans lequel la riposte est effectuée. La santé et la sécurité étant indissociables, Félix Tshisekedi.
Cette épidémie rappelle que la sécurité sanitaire est désormais indissociable des enjeux de paix, de stabilité et de sécurité humaine. Dans les zones affectées par les conflits armés, l'insécurité fragilise la prévention, l'accès aux soins, la surveillance épidémiologique et la réponse rapide aux urgences de santé publique.
De son côté, le président sud-africain a, dans son speech, déclaré, je cite, « Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité auprès du gouvernement et la population de la République démocratique du Congo. Le pays et sa population traversent ces moments difficiles, faisant face à cette épidémie à virus Ebola. » Fin des citations. Il a aussi salué les travaux effectués par les scientifiques, les organisations ainsi que les acteurs qui travaillent sans relâche dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Malgré les défis significatifs liés notamment à la sécurité et à la réponse humanitaire dans la riposte, à ce jour plus de 200 personnes autrefois atteintes d'Ebola sont déclarées guéries.
Autre visite, le ministre d'État du Développement Rural séjourne à Kindu depuis hier soir. C'est en prélude à la célébration de la Journée internationale des coopératives qui intervient demain 4 juillet. À cette occasion, Grégoire Moutchaïl va lancer le programme d'enregistrement des coopératives. Il appelle pour cela les Congolais à l'unité et au travail pour le développement du pays. Grégoire Moutchaïl explique l'importance de cette démarche dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Dans l'ensemble, nous avons un sous-programme qui accompagne le PDL 145 que nous appelons la revitalisation du monde rural. C'est dans ce programme-là que nous sommes venus, d'abord, un, lancer les sociétés coopératives. Parce que la population est habituée, lorsqu'on parle de coopératives, ils ne voient que des coopératives agricoles. Non, nous voulons des coopératives multisectorielles et polyvalentes. C'est-à-dire des coopératives qui peuvent travailler dans tous les... Nous sommes venus, il y a des coopératives d'autres provinces qui sont déjà ici à Kindu. Nous sommes venus lancer un grand programme d'enregistrement des coopératives. Parce que le samedi, c'est la journée internationale des coopératives. Nous allons célébrer ça pour tout le Congo ici à Kindu. Et nous allons lancer l'enregistrement officiel des sociétés coopératives, permettre à ce que les Congolaises et Congolais connaissent comment créer des emplois. Par exemple, créer une boulangerie coopérative, c'est possible. Créer des entreprises coopératives, c'est possible. Donc, il est temps que les Congolais puissent se mettre debout, travailler pour sa propre population.
Nous l'avons annoncé en titre, face à la menace persistante des rebelles ADF dans l'est et le nord-est de la RDC, les autorités congolaises veulent renforcer la riposte. Réunis depuis Iraki Sengani, les responsables sécuritaires des 5 provinces touchées travaillent à l'élaboration d'un plan régional d'éradication de ce groupe armé actif de l'Ituri au Nord-Kivu, en passant par certaines zones de la Tchopo et du Haut-Tuélé. La rencontre est présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Elle vise à mieux coordonner les opérations et à renforcer la coopération entre les provinces concernées. DDT avec Rassam Zati.
Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, de la Tchopo, du Haut-Tuélé et du Bas-Tuélé veulent désormais parler d'une même voix face à la menace des rebelles ADF. Réunis à Kisangani autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les gouverneurs et les responsables des comités provinciaux de sécurité évaluent l'évolution de cette menace qui continue de faire des victimes, notamment dans les territoires de Beni, d'Irumu, de Mambasa et dans plusieurs zones frontalières. L'objectif est de jeter les bases d'un plan régional d'éradication des ADF et de renforcer la coordination des actions entre les provinces les plus touchées par les incursions de ces groupes armés. Les travaux portent notamment sur l'actualisation de la cartographie des zones les plus exposées, le partage des renseignements recueillis sur les terrains ainsi que l'identification des besoins logistiques des forces engagées. Une attention particulière est également accordée aux couloirs forestiers empruntés par les ADF pour leurs déplacements. À ce titre, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, a été associé aux travaux. L'établissement public est appelé à contribuer à la surveillance des aires protégées, à appuyer les opérations de mobilité et à renforcer la sensibilisation des populations vivant à proximité de ces espaces. Les conclusions de cette rencontre devraient servir de base à une stratégie régionale plus coordonnée contre les ADF.
Et dans les territoires de Mambasa en Ituri, pendant ce temps, des acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme face à la présence d'un groupe armé identifié comme Wazalendo dans plusieurs carrés miniers du groupement de Bakaïku. Ils affirment que cette présence crée la confusion avec les ADF et cela aggrave l'insécurité dans cette zone déjà confrontée aux attaques de cette rébellion ougandaise. Ces acteurs appellent les autorités à intervenir rapidement. Jean-Claude Lokidile nous en dit un peu plus sur leur inquiétude.
L'association pour la protection des enfants et femmes vulnérables, antenne de Mambasa, se dit préoccupée par la présence des combattants Wazalendo dans plusieurs localités minières, notamment à Pangoï, Lulumo, Itembo et Pakapela. Selon elle, cette situation aurait déjà provoqué d'importantes conséquences humanitaires. Après la récente attaque de Pangoï, qui a fait au moins 5 morts et plusieurs personnes portées disparues, de nombreux habitants ont abandonné leur village et leurs activités pour trouver refuge à Biakatu, Luemba, Mambasa Centre et dans d'autres zones jugées plus sûres. Cette structure demande au gouvernement de renforcer la présence des forces de sécurité et de mettre fin à la présence de ces groupes armés dans la région. Rams Malikidogo, son responsable territorial.
Avec cette sida, c'est le bon moment où les autorités militaires doivent vite déployer les effectifs, les éléments militaires et la police pour aller sécuriser ces zones-là. Et nous ne voulons pas vraiment les équipes de Wazalendo dans le territoire de Mambasa vu qu'ils prêtent confusion avec l'ennemi.
Il y a quelques jours, l'administrateur du territoire de Mambasa avait annoncé que les FARDC, avec l'appui des partenaires du gouvernement, préparaient des opérations militaires de grande envergure dans la zone afin de rétablir la sécurité dans cette partie de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Luki, Dile, Radio Kapi.
Autre inquiétude, toujours en Ituri, c'est que les incursions présumées de l'armée sud-soudanaise suscitent dans les territoires d'Arou. Selon des sources locales, 3 Congolais auraient été enlevés lors d'une incursion mardi 30 juin. Et face à cette situation, le président du conseil local de la jeunesse de la chefferie de Kakwa appelle les autorités congolaises à réagir sans délai. Trésor Aïki demande notamment le déploiement des FARDC afin d'assurer la protection des populations et de préserver l'intégrité du territoire national. Écoutons Trésor Aïki, président du conseil local de la jeunesse, au micro de notre confrère Lomo Arike depuis Arou.
Nous ne cessons de décrier ce cas à nos autorités, au gouvernement de la République démocratique du Congo, afin qu'ils essaient de prendre une solution durable. C'est parce qu'à chaque fois les cas se produisent, bien sûr, il faut à la fin de compte passer par des négociations afin que nos frères qui sont enlevés soient retournés par cette armée sud-soudanaise. Mais les cas se répètent jour au jour et cela ne nous permet pas d'avoir une solution durable. C'est ce qui permet à ce que cette population transfrontalière ne vive pas soit toujours en paix. Nous suggérons à notre armée de porter une solution durable. Pourquoi ? Parce que nous connaissons très bien notre frontière avec le Sud-Soudan n'est pas du tout claire. C'est ici que nous demandons à notre gouvernement qu'on fasse la démarcation afin que de rendre notre frontière avec le Sud-Soudan au clair. Et deuxièmement, nous avions demandé à notre gouvernement de déployer également la force armée de la République démocratique du Congo afin de sécuriser l'intégrité nationale de notre pays et également la paisible population transfrontalière.
Dans l'enseignement, plusieurs établissements scolaires de la RDC ont clôturé hier 2 juillet l'année scolaire 2025-2026. Dans la commune de Ngalima, à Kinshasa, l'école bilingue Prepi International School a organisé une cérémonie pour marquer cette clôture en beauté malgré les difficultés liées au terrain marécageux où se trouve l'établissement. L'événement a rassemblé des responsables de l'école, enseignants, parents ainsi que les élèves. Ensemble, ils ont passé en revue le déroulement de l'année scolaire et célébré le parcours de chaque élève. C'est un reportage signé Father.
Malgré le vent sec de la saison sèche, l'ambiance était festive. Enseignants, élèves et parents ont partagé un moment de convivialité, rythmé par les discours, des poèmes et des scénettes préparées par les écoliers. Une écolière s'exprime.
Chaque jour, c'était quelque chose de nouveau à apprendre. J'ai appris à lire, à écrire. Je me suis perfectionnée, comme la physique, la chimie, plusieurs autres cours. Et je remercie aussi tous les autorités de l'école.
Les parents ont manifesté leur soutien et leur satisfaction.
J'ai vu ma fille, comment est-ce qu'elle a évolué durant toute l'année. Mon enfant parle français, parle aussi l'anglais. Pour moi, vraiment, c'est une fierté.
Les coordonnateurs de la Fondation Poetry International, Héritier Katamboa, a salué les avancées significatives enregistrées au cours de l'année et souhaite un accompagnement de la part du ministère de l'Enseignement.
Et tel que vous venez de constater, il y a nos enfants qui s'expriment déjà en anglais. D'ailleurs, c'était notre objectif, former les enfants, non seulement en français, mais aussi en anglais. Mais nous comptons améliorer encore, afin de bien équiper nos enfants pour une très bonne intégration au niveau de la société. Nous sommes une fondation, que le ministère puisse nous accompagner.
Cette clôture de l'année scolaire illustre la détermination des acteurs éducatifs de Kinshasa à bâtir une société d'élite où l'accès à l'éducation demeure un pilier essentiel pour l'avenir du pays.
Et à l'occasion toujours de la fin de l'année scolaire 2025-2026, l'ONG Comité Associatif Résolu pour la Défense des Droits Humains, Kouardo, basé dans le territoire d'Arou en Ituri, appelle les parents à renforcer l'encadrement de leurs enfants pendant les vacances. L'organisation les invite à privilégier des activités éducatives et récréatives afin de prévenir la délinquance juvénile. Dans une déclaration publiée hier 2 juillet, jour de la proclamation des résultats dans les écoles, Kouardo estime que le manque de suivi parental expose certains enfants au mariage précoce, à l'exploitation et au recrutement par des groupes armés actifs dans la région. Son coordonnateur, Benjamin Ngabou, est au micro de Martial Kizabiamungo.
Les vacances commencent, mais elles ne doivent pas être une période de négligence. Cette période dans laquelle nous sommes doit être état de repos, état d'éducation familiale et état de préparation de la prochaine rentrée scolaire 2026-2027. Ça demande trop, nous savons tous. Nous demandons à toute la communauté de protéger les enfants contre les mariages précoces, contre les travaux dangereux et contre le recrutement des enfants dans les forces et groupes armés. Nous recommandons à tous les parents et tuteurs de bien garder leurs enfants auprès d'eux. Nous les invitons à éviter de les envoyer auprès des oncles, auprès des tantes, auprès des proches familles, car plusieurs enfants deviennent victimes de violences, deviennent recrutés comme un enfant soldat, deviennent victimes d'exploitation et d'autres menaces pendant les vacances.
Les travaux de validation du projet Varsita se sont achevés hier jeudi à Kinshasa par l'adoption du plan de travail couvrant les 6 premiers mois de mise en œuvre avant le lancement effectif des activités sur le terrain en 2027. Validé par le comité de pilotage, ce programme vise à atténuer les effets du changement climatique sur les populations tout en encourageant les initiatives innovantes et le transfert de technologies destinées à renforcer les capacités d'adaptation face aux défis climatiques. Blaise Oshindani.
Au terme de la 2e journée de travaux, les représentants des services publics, de la société civile, du monde scientifique, des PME et des partenaires techniques se sont accordés sur une feuille de route destinée à lancer la mise en œuvre du projet Varsita. Selon les coordonnateurs du projet, Jean-Ilunga Mouneng, les comités de pilotage a approuvé le plan de travail et les budgets couvrant les 6 premiers mois d'exécution.
Aujourd'hui, nous avons reçu l'aval du comité de pilotage qui est l'organe habilité à valider nos plans de travail et le budget qui est associé à ces plans de travail. Le projet en lui-même, c'est un projet qui tourne autour de 9 millions de dollars, qui porte sur 4 ans dans sa première phase et 7 ans dans sa phase complète.
De son côté, la secrétaire générale du ministère de l'Environnement, Mbangu Kikumi Pascaline, a indiqué que cette première phase sera essentiellement consacrée à la mise en place des structures de gestion, au recrutement des consultants.
Dans un premier temps, le projet pour les 5 mois de l'année, ils vont mettre en place l'unité de gestion de projet, ils vont recruter les consultants, ils vont préparer les guides. Il y aura le renforcement des capacités parce qu'il y a le thème de l'adaptation et atténuation au changement climatique.
Doté d'un financement d'environ 9 millions de dollars américains, le projet Varsita est prévu pour une première phase de 4 ans, avec une possibilité d'extension à 7 ans. Les 7 premiers mois seront consacrés à la mise en place de mécanismes de gestion avant le lancement effectif des activités sur le terrain en 2027.
Actualité internationale.
C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a annoncé cette semaine. Une épidémie de choléra sévit depuis mai dans des zones de guerre isolées au Soudan. Le bilan fait état de 120 morts et 1102 cas suspects. Le choléra existe à l'état endémique au Soudan. Les épidémies survenaient de manière cyclique tous les 3 ans, mais en raison de la guerre qui a détérioré les conditions de vie, elles sont devenues quasi permanentes.
L'invité.
La RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda, c'était vendredi 27 juin. La RDC accuse le Rwanda de violation de plusieurs conventions internationales. Cette démarche a fait l'objet des échanges entre les intervenants dans des missions au dialogue entre Congolais. D'hier, ils sont ici au micro de Guimaté.
Kibangu Kalala, vous êtes professeur de droit international et spécialiste en droit public. Vous êtes l'un des anciens avocats ayant plaidé dans l'affaire RDC contre l'Ouganda à la Cour internationale de justice. Comment vous analysez cette démarche de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de la justice?
Je salue l'action entreprise maintenant par le gouvernement pour faire en sorte que le Rwanda puisse répondre de ses crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, de massacres épouvantables, et que le Rwanda soit condamné à indemniser ses victimes, comme nous l'avons fait à l'égard de l'Ouganda. Nous sommes au cœur, si vous voulez, de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. Les conventions que vous citez là font partie de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. En 2002-2006, la RDC avait déjà invoqué la violation des mêmes conventions. Je vois que le gouvernement revient encore avec la même argumentation contre ces instruments.
Qui avait été rejeté à l'époque.
Oui, à l'époque, c'était rejeté. Bon, j'ose espérer que cette fois-ci, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas aller commenter la requête qui vient à peine d'être déposée. L'affaire se trouve en justice, devant la Cour internationale de justice. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais toujours est-il que la requête reprend justement des critiques sévères contre le Rwanda. Et depuis 2006, ça fera bientôt 20 ans, donc le Rwanda n'a fait que commettre des crimes, ne fait que violer justement ces conventions internationales et sans conséquence, sans sanction, sans impunité totale. Vous comprenez? Et donc maintenant là, il faut faire en sorte que cette fois-ci soit la bonne. Et donc j'ai salué d'abord l'action du gouvernement, l'ouverture de ce front judiciaire devant la Cour internationale de justice contre le Rwanda, qui doit être puni, qui doit réparer les crimes abominables qu'il est en train de commettre dans notre pays où nos populations souffrent, sont massacrées par les troupes rwandaises, vraiment dans l'impunité la plus totale.
Merci, Monseigneur Pax André-Marie Kito Masimango. Vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale pour la CPI-RDC. Vous êtes aussi coprésident du réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités et aussi coordonnateur régional Afrique de la Coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Comment vous réagissez à cette plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de justice?
Nous soulignons que la Cour internationale de justice avait déjà répondu la RDC par rapport à tous ces éléments. Et sa conclusion était plus simple. La Cour internationale de justice s'est reconnue incompétente à pouvoir statuer sur la situation pour la simple raison que le Rwanda n'avait pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. Et voilà, ça c'était déjà une réponse, et cette réponse de la Cour constitue déjà une jurisprudence depuis l'arrêt de 2006. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 ans. Je ne sais pas moi si à partir de ces 20 ans, on pourrait nous dire qu'il y a des éléments nouveaux qui puissent renverser cette jurisprudence de la Cour internationale de justice.
Merci. Regen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Quelle lecture vous faites-vous également de cette plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de justice?
Je voudrais aussi dire que j'ai aussi une nuance en ce qui concerne la pertinence ou même peut-être les chances de réussite de cette procédure. Donc, c'est sûr que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour et ainsi, dans l'arrêt passé, la Cour s'était déclarée incompétente à l'égard du Rwanda. Et cet obstacle juridique est malheureusement encore là, ce qui m'amène à penser que les juristes qui ont conseillé la République dans cette procédure les savaient aussi. Et je pense qu'ils l'ont fait en essayant de plutôt d'avoir un autre gain. Je pense que c'est le gain politique. Donc j'ai comme l'impression que, bien sûr, on utilise les outils juridiques, mais pour un gain politique. Et je pense que c'est justifiable étant donné la réalité du terrain, sachant que les obstacles juridiques sont là, mais quand même savoir tout simplement qu'au moins il y a eu une procédure devant l'encours.
Je rappelle que vous pouvez suivre ce numéro de Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net, aussi sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Jude Mista Bilanda avec Alain Goy à la mise en onde. Bon début de week-end.